Et nous ouvrons donc la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre en entier, mais ce matin nous allons nous limiter aux 8 premiers versets. Et encore, je pense qu'on y reviendra la semaine prochaine, mais Dieu voulant. Apocalypse 4, nous commençons la lecture au premier verset. Après cela, donc c'est Jean qui parle, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu le premier chapitre du livre d'Ézéchiel et un chapitre qui, si on le lit comme cela, superficiellement, peut nous laisser perplexes. Il y a même quelques temps, où il y a un temps où les enseignements religieux juifs, les rabbins, voulaient enlever le livre d'Ézéchiel du canon de l'Écriture parce qu'ils ne pouvaient pas en comprendre le sens. Mais on a une explication ici et un parallèle dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Simplement en résumé de ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est en l'an 593 avant Jésus-Christ que Ézéchiel était exilé à Babylone avec Israël et cela à cause de la rébellion du roi Josaphat. Et Ézéchiel donc reçoit des informations plutôt mauvaises au sujet de la situation de Jérusalem. Et là, comme nous l'avons lu au bord du fleuve du Kébar, la main de l'Éternel se pose sur le prophète et il reçoit cette vision. Verset 4, nous avons lu, « Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'air impoli sortant du milieu du feu. » Il rajoute aussi que sont apparus 4 animaux. Leur face était la face d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle. Et au-dessus de leur tête, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Une lumière éclatante englobait le tout et avait l'aspect d'un arc-en-ciel. Il y avait au-dessus du ciel quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Quand on lit ce passage, ce chapitre Ézéchiel 1, on peut être perplexe. Mais voilà que Jean reçoit une vision semblable à la vision qui a été donnée au prophète Ézéchiel. Et le but qui est donné, le but de cette vision, comme le but de la vision qui a été donnée à Ézéchiel, c'est que dans des temps difficiles, dans des moments où l'on pense que voilà, c'est la défaite, c'est la fin, Dieu révèle qu'il est souverain, qu'il est souverain sur toute chose. Et c'est le premier point, la souveraineté de Dieu. On voit Dieu qui est assis sur son trône. Bien sûr, du temps d'Ézéchiel, l'empereur babylonien Nebuchadnezzar était sur son trône majestueux et il régnait sur ce trône. Mais dans la vision, Ézéchiel voit que même les épreuves qui attendent le peuple d'Israël viennent du trône de Dieu, qui est au-dessus du trône de l'empereur Nebuchadnezzar. C'était l'espérance du prophète en exil que le Dieu de l'Alliance était celui qui régnait. Et parce qu'il régnait, il y avait de l'espoir pour le peuple, il y avait le salut pour le peuple d'Israël. Et donc, 7 siècles plus tard, Jean reçoit une vision similaire. Et c'est cette même réalité qui est soulignée à l'apôtre Jean, qui est lui aussi en exil. Rappelez-vous, il est à Patmos. Il est en exil. Il a déjà écrit, nous l'avons vu dans les premiers chapitres, Jésus lui a donné d'écrire aux églises, aux 7 églises qui sont en Asie, qui vont, certaines ont déjà connu la persécution, mais il leur dit la persécution arrive. Et une persécution qui vient de la part de César, qui est à Rome. Mais Jean est aussi rappelé que ce n'est pas César qui est souverain, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est souverain, qui dirige l'histoire, qui dirige les événements, grands et petits, et qui dirige toutes choses qui arrivent même dans nos vies. Et ce message, donc, est important pour l'Église. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes décrits comme des exilés. Par exemple, Pierre, dans sa première lettre au chapitre 1, verset 1, s'adresse à ceux qui sont étrangers, qui sont dispersés. Alors bien sûr, il s'adresse à ceux qui sont dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Mais c'est aussi une réalité pour nous. Nous aussi, nous sommes étrangers dans ce monde. Ce monde n'est pas notre pays. Ce monde n'est pas notre demeure. Jésus lui-même a déclaré, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. C'est là notre demeure, c'est là notre pays. Et nous allons ressentir cela sans doute de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance. Nous allons le ressentir. Nous sommes des exilés loin de notre véritable pays. Et alors que nous nous préparons à faire face aux tribulations, c'est une bénédiction de savoir, comme Ézéchiel et comme l'apôtre Jean, de savoir que tout vient du trône de Dieu qui est souverain sur toute chose et du trône du Dieu qui est aussi fidèle, qui est notre Père, celui qui nous aime, celui qui a donné son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour venir dans ce monde, accomplir le salut, porter nos fautes et subir la condamnation à notre place et qui, en Christ, nous donne de merveilleuses promesses. Et même les épreuves les plus difficiles concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par lui et concourent aussi à souligner la gloire de notre Dieu qui est souverain sur toutes choses. Nous avons déjà dit que ce livre de l'Apocalypse est organisé en 7 sections. Chaque section décrit l'histoire de l'Église avec la perspective de Dieu. Et on pourrait dire, il y a plusieurs images, mais on pourrait dire que ce sont 7 cercles qui deviennent plus intenses, ou que le curseur va se déplacer de plus en plus vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'accent va être de plus en plus mis sur le retour et sur la gloire. Et plus on avance dans le livre, c'est ce que l'on va voir. Le retour de Christ, le jugement dernier, la gloire pour l'Église. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier cette section, c'est la clé, c'est de noter quand le livre parle justement du retour du Seigneur Jésus-Christ et du jugement dernier. Et on retrouve cela à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est ce qui pose problème, par exemple, à beaucoup d'évangéliques aujourd'hui, qui sont plutôt des dispensationalistes et qui voient l'Apocalypse comme étant une seule histoire, c'est-à-dire qui commence au chapitre 1 et qui se termine au chapitre 22. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de confusion dans l'explication de ce livre, parce que justement, il y a mention du retour de Christ plusieurs fois dans le livre. Il y a mention du jugement dernier à plusieurs reprises. Et ces personnes, ces dispensationalistes qui ne voient le livre de l'Apocalypse comme étant un seul livre, ont du mal à expliquer ces choses, essayent de les caser dans des événements importants qui se sont passés, etc. Et on voit par exemple tous ces tableaux, vous avez peut-être déjà vu, avec les périodes et que ceci correspond à cela, etc. Mais cela n'est pas possible, cela n'est pas le cas. Nous avons dit, et nous allons le voir, et cela devient clair, qu'il s'agit de 7 tableaux qui se suivent, mais qui parlent de la même réalité, avec une perspective différente. La réalité, donc, de l'histoire de l'Église entre l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. Et donc aujourd'hui, début du chapitre 4, nous voyons le deuxième tableau. Le premier a couvert les chapitres 1 à 3. Maintenant, le deuxième tableau parcouvre les chapitres 4 à 7. Et dans le premier tableau, je vous rappelle, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ qui se tient comme souverain sacrificateur, comme roi au milieu des chandeliers, au milieu des églises, qui sont au nombre de 7, qui sont des églises réelles, mais qui représentent aussi toute l'Église, et qui souligne les caractéristiques, mais aussi les challenges auxquels toutes les églises vont faire face pendant cette période, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est important pour nous d'étudier ce livre, et les autres, bien entendu, aussi. Cette deuxième section, le curseur va donc se déplacer un petit peu vers le futur. Alors bien sûr, ça reste général, on n'est pas encore dans la septième section, on est dans la deuxième, mais le curseur va se déplacer un petit peu. Et nous lisons verset 1, que Jésus appelle l'apôtre Jean et lui dit « Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite ». Il y a donc quelque chose, un élément du futur. Et là, par exemple, c'est une erreur de beaucoup de personnes qui vont diviser l'Apocalypse en 3 parties. Le chapitre 1, c'est le passé. Chapitre 2 et 3, ça décrit l'Église. Et le chapitre, à partir du chapitre 4, c'est tout ce qui est l'avenir, avec toutes les interprétations imaginables, toutes sortes de devinettes, aussi loufoques les unes que les autres. Mais donc, cette deuxième section couvre les chapitres 4 à 7. Les chapitres 4 et 5 vont nous présenter la réalité autour du trône de Dieu dans le ciel, ce qui se passe. Le chapitre 6 va regarder à l'histoire et en utilisant l'image des sceaux qui sont ouverts et les 4 cavaliers et va conclure avec la colère de l'agneau et l'impossibilité des méchants de trouver une place, de trouver un lieu pour se cacher. Et le chapitre 7 nous décrit la louange du peuple racheté dans la gloire. Mais avec ce plan général, on va comprendre pourquoi cette vision commence avec ce zoom sur le trône qui est dans le ciel. Un commentateur dit ceci, le but de cette vision est de nous montrer au moyen de symboles que toutes choses sont dirigées par celui qui siège sur son trône. Et voilà, le but de cette vision que nous avons ici au chapitre 4, c'est de nous rappeler que Dieu règne. Deuxième mot sur la feuille. Dieu règne, il est souverain. Et cela va préparer l'Église et nous préparer, mais préparer l'Église au premier siècle à affronter les différentes épreuves qu'elle va connaître. Elle va nous préparer aussi à affronter différentes épreuves. Nous allons voir des scènes qui sont effrayantes, qui sont bizarres, mais par cette vision du trône de Dieu, nous recevons, les croyants, l'Église reçoit le réconfort au milieu des épreuves que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Dieu est souverain sur toutes choses. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 99, verset 1, « L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. » La vision donc commence, nous l'avons lu, verset 1, avec Jean qui regarde et il voit une porte ouverte dans le ciel. Et plusieurs prophètes, comme Ézéchiel, comme Ésaïe par exemple, ont commencé leur ministère, par la vision du trône et de la gloire de Dieu. Moïse, par exemple, est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu et recevoir la loi. Et voilà donc que Jean reçoit cette vision. Dieu l'appelle dans sa présence. Et Jean entend la voix du Seigneur Jésus. Il précise que c'est la voix qu'il a déjà entendue au chapitre 1. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Cela indique, quand on prend de la hauteur, qu'il va y avoir une nouvelle perspective. Et Jean entre par cette porte pour voir une vision de ce qui se passe dans le ciel. C'est une porte de révélation. Encore une fois, les dispensationalistes interprètent cela à tort. Ils pensent que c'est une image de l'enlèvement de l'Église, mais il n'y a rien dans le texte qui dit qu'il faut l'interpréter de cette manière-là. Non, Jean fut saisi par l'Esprit. Nous avons déjà vu au chapitre 1er que cela veut dire que tout son être, sa compréhension, ses sens sont sous l'influence de l'Esprit-Saint, afin qu'il saisisse, qu'il voit, qu'il comprenne les symboles qui représentent les choses de Dieu. Et la souveraineté de Dieu donc est ici illustrée de plusieurs manières. La première, elle est illustrée par le trône, c'est le troisième mot sur la feuille. Par le trône, Jean voit au verset 2 un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Dans le livre de l'Apocalypse, le trône de Dieu est mentionné 38 fois. Ce livre parle beaucoup de la souveraineté de Dieu sur l'histoire et aussi sur les difficultés, sur les épreuves que l'on rencontre au cours de l'histoire. Et dans ces chapitres 4 et 5, il est mentionné 17 fois sur les 38. Cette section donc montre et met l'accent véritablement sur le trône de Dieu. Cela nous rappelle Ésaïe, quand Ésaïe est entré dans le temple, au moment où Israël connaissait des difficultés, qu'est-ce qu'il a vu ? Ésaïe 6, verset 1, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Cela nous rappelle Ézéchiel, que nous avons lu tout à l'heure. Captif à Babylone, il pensait, comme les autres Israélites, oui, que l'Éternel est souverain à Jérusalem, mais qui est-ce qui est souverain à Babylone ? Et Dieu lui montre son trône parce que lui aussi, parce que Dieu est aussi souverain à Babylone. En fait, il est souverain partout sur la terre. Et ce message est donné à l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos. Un commentateur dit ceci, « À ceux qui doivent vivre à l'ombre du trône de César, ombre qui est rendue encore plus sombre par le trône de Satan, nous l'avons vu au chapitre 2, une seule vérité compte. Il y a un trône qui est plus élevé, qui est le trône de Dieu lui-même. » Et nous devons donc nous rappeler cela, quand nous voyons tout ce qui nous entoure, quand nous voyons les autorités prendre des décisions qui nous laissent perplexes, au lieu de regarder à ceux qui sont assis sur les trônes de ce monde, regardons au ciel. Regardons au travers de la parole celui qui est assis sur un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Que Dieu est souverain sur toutes choses, qu'il dirige toutes choses, qu'il dirige toute l'histoire de ce monde. Le trône de Dieu montre qu'il est souverain. La deuxième chose, c'est la maîtrise des événements de l'histoire, quatrième mot sur la feuille. Il dit au verset premier, « Voici, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Le Seigneur Jésus-Christ peut décrire l'histoire par avance. Pourquoi ? Parce qu'il est maître de l'histoire. Parce qu'il est souverain sur l'histoire. Quand on parle, nous, de l'histoire, quand le monde parle de l'histoire, on parle de choses qui, surtout en parlant des événements à venir, on parle de choses qui pourraient arriver. On parle de choses qui sont peut-être possibles d'arriver. Parfois, on est suffisamment au clair, on est suffisamment sûr, on va dire qu'on va parler de choses qui vont arriver. Mais la Bible dit, la perspective biblique, c'est que il parle de choses qui doivent arriver. Cela va arriver, cela doit arriver, parce que cela est sous le règne de Dieu qui est souverain. Et que sa volonté va s'appliquer. Ses décrets vont être exécutés. Et Jésus emmène Jean et lui montre ce qui doit arriver. Parce que cela est sous le contrôle d'un Dieu qui est souverain. La troisième chose qui montre la souveraineté de Dieu, c'est la place du trône. Elle est au centre de toute la création. Il y a des créatures angéliques qui représentent la création. Il y a l'Église rachetée, il y a toute une armée d'anges. Et tout est centré sur Dieu. Tous regardent à Dieu. Tous sont là pour adorer, pour servir Dieu. Il y a beaucoup, et parfois ça peut être le problème de ceux qui aiment la vérité de la souveraineté de Dieu, que parfois on peut la limiter simplement au salut, que Dieu est souverain dans le salut et qu'il sauve de manière souveraine, ce qui est tout à fait vrai. Mais Dieu est souverain, mais pas seulement dans le salut. Il est souverain en toutes choses. Il est souverain dans le jugement. Il est souverain même dans les épreuves, dans les tribulations. On va voir dans ce livre des trompettes qui vont retentir. On va lire dans le chapitre 6 les sceaux qui vont être ouverts, la colère de Dieu qui est déversée. Mais tout cela vient du trône de Dieu. Tout cela vient du trône. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui est souverain sur toute l'histoire. Il contrôle toutes choses. Et cette réalité de la souveraineté de Dieu sur toute chose a été un réconfort pour Ézéchiel en Babylone, est un réconfort pour Jean à Patmos et doit être un réconfort aussi pour nous. Au milieu de nos problèmes, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos épreuves, nous rappeler que Dieu est souverain sur toute chose, qu'il est en plus un Dieu de grâce qui nous a aimés, qui nous a donné son propre Fils pour nous. Alors les paroles de Romains 8, 28, que toutes choses concourent à notre bien, ne seront pas simplement un slogan, mais seront une source de force, une source de réconfort pour nous. Que toutes choses concourent à notre bien, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La souveraineté de Dieu est un sujet de réconfort, même au milieu des difficultés. Même au milieu des épreuves. Ce chapitre 4 est considéré comme un des plus grands chapitres de la parole de Dieu, comme Jean 3, par exemple, ou Romains 8, ou Hébreux 7. Et il montre la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Mais le deuxième point que je veux souligner, c'est que nous voyons, nous voyons que Dieu est souverain par cette vision. Nous voyons aussi que l'activité principale, l'activité centrale de l'histoire, c'est l'adoration de Dieu. Sixième mot sur la feuille. C'est le but de l'histoire. On retrouve, nous allons voir cela, que tout, comme j'ai dit tout à l'heure, tout retrouve autour du trône. Ils sont là, et Jean, donc, a cette vision de la perspective du ciel. Dieu est créateur, il est au milieu de toute sa création. Et l'occupation céleste nous montre que l'adoration de Dieu est l'appel le plus élevé qui est adressé à la création. C'est la raison de notre existence. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour le servir, pour prendre plaisir en lui. Comme un commentateur dit, les créateurs trouvent leur accomplissement, la pleine satisfaction de leur existence dans l'adoration et le service de Dieu. Le monde, lui, prétend répondre à nos besoins, mais il en est incapable. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des biens, on possède des richesses, ils ont de quoi occuper leur temps, mais ils sont insatisfaits. Nous avons été créés pour Dieu, pour l'adorer et le servir. C'est seulement là que nous trouvons notre accomplissement. Et nous voyons l'adoration de Dieu dans deux groupes qui sont réunis autour du trône dans le ciel. Tout d'abord, le premier groupe, au verset 4, nous voyons 24 trônes et 24 vieillards assis sur les trônes. Quelqu'un a dit qu'il y a autant d'interprétations qu'il y a de trônes. Mais en fait, il n'y a qu'une seule qui est valable. Et on la voit quand on prend le reste de ce livre de l'Apocalypse, en Apocalypse 21. Et dans les versets 10 à 14, on a une description de la nouvelle Jérusalem. Et on lit ceci, et toujours Jean qui parle. « Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, au nord, 3 portes, à midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc on a les noms des 12 fils de la tribu d'Israël et les noms des douze apôtres de l'agneau. Les 12 patriarches d'Israël qui représentent les croyants de l'Ancien Testament et les 12 apôtres représentant les croyants de l'ère du Nouveau Testament, ce qui donne 24, qui est un symbole de toute l'Église, 7e mot sur la feuille, de tout le peuple des rachetés. Et cela souligne qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Il n'y a qu'une seule Église de Dieu devant son trône. Les croyants de l'Ancien Testament attendaient la venue du Messie, attendaient la venue du Sauveur. Les ceux du Nouveau Testament regardent et se réjouissent de ce que Dieu a fait en Christ. Mais il n'y a qu'un seul peuple devant le trône de Dieu. Il n'y a pas deux. Et cette vision est importante pour nous, pour les croyants qui sont encore sur terre, et particulièrement pour ceux qui traversent des difficultés. Quand on voit la description céleste de l'histoire, qu'est-ce qui occupe la place importante devant le trône de Dieu? C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est elle qui compte aux yeux de Dieu. Il y a le trône de Dieu au centre, glorieux, majestueux. Et la première chose que Jean voit autour du trône, ce sont les 24 vieillards qui représentent l'Église dans la gloire. Et cette vision et tout le livre de l'Apocalypse, en réalité, va inverser les choses telles qu'on les voit aujourd'hui. Dans le monde, l'Église est insignifiante. Le monde méprise les chrétiens, ils n'ont aucune signification, ils n'ont aucune importance. Il y a plusieurs raisons à cela, sans doute parce que l'Église a perdu son message, elle cherche à être respectable aux yeux du monde. Mais le monde rejette l'Église, le monde rejette le message de l'Évangile. Aujourd'hui, par exemple, pour beaucoup de personnes, aujourd'hui, 1er février 2015, pour beaucoup de personnes, ce qui va compter, c'est le Super Bowl. Et l'année dernière, en 2014, il y a eu plus de 111 millions de téléspectateurs. Mais la parole de Dieu nous dit, et le livre de l'Apocalypse nous dit, non, qu'est-ce qui compte pour Dieu? C'est son peuple, c'est son Église. Notre rencontre ce matin, petit groupe que nous sommes, a plus d'importance aux yeux de Dieu que le Super Bowl avec ses millions de téléspectateurs. Pourquoi? Parce que c'est au milieu de son peuple que la parole est annoncée, parce que c'est par son peuple que la bonne nouvelle de l'Évangile est proclamée. Que les pécheurs peuvent entendre ce merveilleux message du salut en Christ. Et ce peuple s'engage, comme nous le faisons, dans cette grande activité pour laquelle nous avons été créés, c'est-à-dire l'adoration de Dieu, la louange de Dieu. Et quand l'Église doit faire face, elle entend parler d'épreuves et de persécutions à venir, les croyants sont encouragés de voir que l'Église est autour du trône et que nous sommes de ceux qui sont assis sur le trône avec Christ. Ces 24 représentent aussi l'Église. Cela se voit aussi dans le fait que tous les 24 sont revêtus de vêtements blancs. Huitième mot sur la feuille. Et ils ont une couronne d'or sur la tête. Les vêtements blancs représentent la justice que Dieu donne, la justice du Seigneur Jésus-Christ. Ils portent sa justice. Et c'est la même pour tous, croyants de l'Ancien Testament comme croyants du Nouveau Testament. C'est la même. C'est la réalité du psaume 32, par exemple, que l'apôtre Paul va citer en Romains 4. L'expérience de David, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Mais c'est la réalité à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Nous sommes revêtus de la justice du Christ et nous sommes aussi appelés, comme nous l'avons déjà vu, à vivre une vie qui découle de cette justice. Nous avons vu cela, par exemple, adressé à l'Église à Sardes, que nous sommes appelés à marcher, à ne pas souiller nos vêtements, à vivre une vie de sainteté, à rechercher la sainteté et à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de pécher, même si dans la réalité nous sommes conscients que nous chutons. Mais ce n'est pas une obligation, mais c'est aussi malheureusement une réalité. Mais nous avons des versets comme 1 Jean 1, verset 9, qui nous disent que si nous péchons, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est par cette purification du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance qu'il nous donne de marcher, d'avancer avec lui. Nous sommes appelés à vivre maintenant avec cette justice dont nous sommes revêtus, cette justice du Seigneur Jésus-Christ. Et il porte aussi, non seulement des vêtements blancs, mais il porte une couronne, neuvième mot sur la feuille, une couronne d'or sur la tête. Nous avons vu cela en Apocalypse 2, verset 20, par exemple, où Jésus a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie ». Et à la fin de ce passage, au chapitre 3, nous avons vu cette promesse, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Et ces bénédictions sont certaines, elles ne sont pas limitées à une élite, à des super chrétiens. Non, mais c'est pour tous les vrais chrétiens, tous les vrais, le véritable peuple de Dieu. Tous sont justifiés par la foi en Jésus-Christ. Tous reçoivent cet habit de justice, cet habit blanc parfait. Et nous ne serons pas plus justes dans le ciel que nous le sommes aujourd'hui par la foi en Christ. Parce que nous sommes revêtus de la justice parfaite de Christ. Nous allons grandir en sainteté. Nous serons sans tache lorsque nous serons dans le ciel. 1 Jean 3, par exemple, les premiers versets nous invitent à cela. Mais ici-bas, nous sommes aussi appelés à vaincre. Cela implique des batailles contre le monde, contre le péché, contre l'incrédulité. Mais nous pouvons être assurés que nous sommes à Christ, nous sommes déjà revêtus de cet habit de justice qui est parfait et que nous sommes assurés de cette gloire d'être de ceux qui sont appelés à se retrouver autour du trône de Dieu pour l'adorer. Un commentateur dit ceci, ces 24 vieillards sont nos représentants, ces trônes et ces couronnes sont à nous. La proximité avec Dieu que nous pouvons expérimenter ici-bas n'est que partielle, mais elle sera parfaite dans la gloire. C'est un rappel donc que notre vocation est élevée. C'est une vocation qui est adressée à tous les croyants. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et chacun est important. Ce qui compte pour Dieu, c'est son peuple. Pierre va le dire d'une autre manière dans sa première lettre au chapitre 2 et au verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Comme les fidèles à Sardes, nous sommes appelés à veiller afin de ne pas souiller notre vêtement. Et comme les croyants fidèles d'Elphie, nous sommes appelés à retenir ce que nous avons, afin que personne ne prenne notre couronne. Donc ce qui compte, et la première chose que j'en vois autour du trône, c'est le peuple de Dieu de tous les temps, représenté par ces 24 vieillards sur les trônes. Et le second groupe, nous l'avons au verset 6, des êtres qui sont mystérieux, étranges, remplis Dieu devant et dehors, et devant et derrière. Comme j'ai dit, nous aurions du mal à comprendre si on ne pouvait pas comparer avec le passage que nous avons lu tout à l'heure en Ézéchiel chapitre 1. En Ézéchiel 1, verset 5, nous avons vu quatre animaux qui ont la même apparence générale, avec quelques différences. Et en Ézéchiel 10, il nous est dit que ces animaux représentent, en fait, sont des chérubins, dixième mot sur la feuille. Ce sont des chérubins, pas les petits chérubins grassouillets de la Saint-Valentin. Non, il s'agit ici d'anges majestueux, redoutables. Ils gardent le trône de Dieu. Ce sont ceux qui sont représentés aussi au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Et Jean voit ces êtres couverts Dieu, comme Ézéchiel d'ailleurs. Ils apparaissent sous quatre formes, verset 7. Un lion, un veau, un homme et un aigle. Qu'est-ce que cela représente? Il semble ici que cela représente toutes les catégories des êtres créés, de la création de Dieu. Il y a l'homme, la plus grande créature sur la terre. Il y a le lion, qui est la plus grande créature ou le plus majestueux des animaux sauvages. Il y a le taureau, le veau, ou le taureau, qui est le plus grand, le plus fort des animaux domestiqués. Il y a l'aigle, qui est le plus grand, le plus majestueux des oiseaux. Et ensemble, ils représentent tous les êtres vivants de la création. Le chiffre 4, d'ailleurs, parle d'universalité. On parle des quatre coins de la terre. On retrouve cela en Apocalypse 20, verset 8. On a les quatre points cardinaux, psaume 107, verset 3. On parle quatre vents, Apocalypse 7, verset 1. 4 parle d'universalité. Et ici, nous voyons que Dieu, qui est le Créateur, est assis au trône, sur son trône, qui est au milieu des représentants de tout ce qu'il a créé pour sa louange, pour la louange de sa gloire. Et quand on considère ces quatre êtres vivants qui se tiennent devant le trône et qui représentent toute la création, quand on considère les 24 vieillards qui représentent l'Église rachetée, avec, chapitre 5, verset 11, les myriades de myriades d'anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont impliqués dans l'adoration et la louange de Dieu. 11e mot sur la feuille. C'est ce qu'ils font. Ils sont autour du trône et ils adorent et louent Dieu. Et un commentateur dit ceci, parce que Dieu contrôle toutes choses dans sa souveraineté, nous, avec toute la création, devons faire de l'adoration de Dieu notre activité principale. C'est-à-dire que nos rencontres, par exemple, comme notre culte ce matin, ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. On ne doit pas faire toutes nos activités de la semaine et ensuite mettre une parenthèse. Ah, c'est le moment du culte. Hop, c'est une parenthèse. Non, l'adoration de Dieu est ce qui doit être l'ancrage dans notre vie. C'est ce qui doit animer toute notre vie. Nous sommes appelés à vivre de cette parole, pas seulement le dimanche matin, mais tous les jours, jour après jour, que cette parole déborde de nous dans nos vies quotidiennes. L'adoration de Dieu doit être notre activité quotidienne, notre activité principale, puisqu'elle sera l'activité principale dans la gloire. Elle doit être aussi l'activité principale sur terre. Jean donc entre par cette porte. Il voit ce qui se passe dans le ciel. Il voit un Dieu qui est glorieux, qui est tout-puissant, qui est souverain, qui accomplit sa volonté, qui est maître de l'histoire. Et il voit que le but principal pour lequel nous avons été créés, que toutes choses ont été créées, est l'adoration de Dieu. Et le troisième point que je veux voir ce matin, c'est les raisons. C'est le 12e mot sur la feuille. Les raisons pour adorer Dieu. La vision que Jean reçoit donc montre que Dieu est au centre de l'adoration. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous devrions l'adorer ? Pourquoi est-ce que nous devrions vivre d'une certaine manière ? La réponse, en résumé, c'est à cause de Dieu lui-même, à cause de qui il est. Nous avons déjà vu la souveraineté de Dieu, il est assis sur son trône. Mais maintenant, par différentes images, Jésus montre à Jean d'autres raisons pour lesquelles nous devons adorer Dieu. Tout d'abord, il y a, et c'est le 13e mot sur la feuille, la gloire de Dieu. Pourquoi adorer Dieu ? À cause de sa gloire. Et remarquez que Jean ne cherche pas à définir et à décrire celui qui est assis sur le trône. Pourquoi ? Parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Paul dit en 1 Timothée 6, verset 16, que Dieu habite une lumière inaccessible que nul n'a vu et ne peut voir. Et donc Jean va décrire ce qui est autour du trône, ce qui vient du trône. Il va parler des couleurs, il va parler de ce qu'il voit, ce qu'il entend. Et sa plus proche description de la gloire de Dieu, verset 3, c'est de dire qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Aujourd'hui, si vous cherchez sur Internet, la pierre de jaspe est décrite comme étant une pierre zébrée, tachetée, et qu'on trouve de différentes couleurs. Alors qu'en Apocalypse 21, verset 11, cette pierre est décrite comme étant transparente, comme du cristal. Et c'est pour ça que beaucoup d'experts pensent que l'expression ici devrait plutôt décrire le diamant. Quelque chose qui est transparent, qui reflète la beauté de la lumière, qui brille de mille éclats et qui reflète ainsi la lumière et de la gloire de Dieu. La pierre de sardoine est rouge et l'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, la dominante est verte, vient compléter cette image de la beauté glorieuse de Dieu. Un commentateur dit ceci, « Les pierres intensifient la lumière autour du trône en reflétant la brillance inapprochable, c'est-à-dire la gloire qui est autour de Dieu. » Une telle gloire visible que Jean a du mal à en traduire par des mots est ce qui provoque l'adoration de Dieu dans le ciel. Pourquoi devons-nous l'adorer ? À cause de sa gloire. Deuxième raison qu'il nous donne, c'est le 14e mot, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il garde son alliance. Cela se voit dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance avec Noé. On se rappelle, après le déluge, Dieu a promis qu'il ne détruirait plus la terre par un autre déluge. Il y aurait au contraire la place pour la miséricorde, pour l'annonce de l'évangile, pour que l'évangile puisse se répandre dans tout le monde. Et Dieu est fidèle jusqu'à la fin. Et le trône de Dieu est entouré par cet arc-en-ciel, parce que les promesses que Dieu a faites il va les garder et il les gardera toujours. Nous, par exemple, l'arc-en-ciel que l'on voit, c'est un demi-cercle. Ici, l'arc-en-ciel, c'est un cercle qui est complet. Dieu est fidèle, il n'y a rien qui vient arrêter et qui vient l'arrêter dans sa fidélité. Il est fidèle pour l'éternité. La couleur verte de l'émeraude révèle la beauté, mais il y a sans doute aussi autre chose dans cette couleur verte. C'est aussi un rappel de ce que Noé et sa famille ont vu en sortant de l'arche après le déluge. Ils sont entrés dans un monde nouveau. C'était un nouveau commencement. C'est un monde propre, un monde vert, préparé pour eux. Et de même, tous les rachetés de Dieu en Christ sont gardés par la fidélité de Dieu, qui garde son alliance. Et ils entreront dans un monde nouveau, dans une nouvelle terre. Dieu garde son peuple pour sa gloire et pour notre bonheur. Un commentateur dit ceci à propos de ce passage, il dit ici sous forme d'image, « Nous avons un rappel qu'il ne faut pas interpréter les désastres qui vont arriver comme si Dieu avait oublié ses promesses. Les promesses que Dieu a faites à Noé et toutes les autres qui ont suivi, Dieu les garde parce qu'il est fidèle. » Le trône de Dieu est encerclé de cet arc en ciel qui souligne la fidélité de Dieu qui est une fidélité éternelle. Nous devons l'adorer parce qu'il est fidèle. Troisième raison, 15e mot sur la feuille, la puissance de Dieu. Verset 6. Il voit devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Là aussi, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais il me semble qu'il y a une seule qui vaut retenir. Dans le livre de l'Apocalypse, la mer est synonyme de chaos, de tumulte, de rébellion. On voit par exemple la première bête qui sort de la mer, une image de rébellion. Mais quand dans l'histoire, Israël a été sauvé des Égyptiens, elle l'a été quand la mer a été temporairement ouverte, quand le mouvement des vagues a été arrêté pour un temps. Et ici, en Apocalypse, la mer est arrêtée de manière définitive. Elle est sous les pieds du peuple de Dieu. Aujourd'hui, on voit le chaos, on voit la rébellion, la folie du monde. Mais à la fin, Dieu va tout arrêter. Et comme le peuple d'Israël est passé au travers de la mer Rouge, nous aussi, nous passerons et nous marcherons sur ce monde. Le vent et les vagues vont se taire à la voix de Dieu. Et l'image de l'arc-en-ciel souligne aussi que la mer n'est plus agitée, que c'est arrivé à sa fin et que la rébellion du monde est arrivée à sa fin. La puissance de Dieu qui va faire que toutes choses vont se terminer. La mer est une mer de verre. Elle ne bouge plus. Quatrième raison pour laquelle nous devons adorer Dieu, c'est le 16e mot sur la feuille, c'est la grâce de Dieu. Nous avons vu cela dans l'arc-en-ciel, mais nous pouvons aussi le voir dans les lampes ardentes, verset 5. Nous avons déjà vu que le nombre 7 indique quelque chose de complet. Les 7 esprits décrivent la toute suffisance de l'Esprit-Saint. Nous avons vu aussi au chapitre 1, au verset 4, la salutation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et nous avons vu à ce moment-là le passage dans Zacharie chapitre 4, les premiers versets qui parlent d'une vision similaire d'un chandelier et qui parlent de la grâce de Dieu. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cet esprit que Dieu nous donne et par sa grâce et qui nous permet et qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Pourquoi adorer Dieu? Parce qu'il est souverain, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce que c'est un Dieu de grâce. 5e mot, 17e mot sur la feuille. 5e raison, parce qu'il est saint, à cause de la sainteté de Dieu. Voyons cela dans Au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Cela parle de la gloire de Dieu dans un sens général, mais surtout parle de sa sainteté. On pense au mont Sinaï, par exemple, le mont qui était en feu. Les trompettes retentissaient, le peuple refusait, le peuple ne voulait pas. Il reculait, il avait peur. La sainteté de Dieu est une cause de notre adoration. Verset 8, les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient. » À cause de la gloire de Dieu, de ce qu'il est, à cause de tous ses attributs, Dieu est au centre de notre adoration et l'adoration est au centre de toute l'activité de la création. Mais quand on voit la sainteté de Dieu, quand on voit la majesté de Dieu, et que l'on voit les chérubins qui sont ces êtres redoutables, qui gardent le trône, on doit se poser la question. Comment est-ce que moi, pécheur, je peux être accepté? Comment est-ce que moi, pécheur, je peux avoir une place devant ce trône, être de ceux qui sont autour du trône pour adorer Dieu? On se rappelle que les chérubins, qui sont ces anges terribles, ce sont ceux qui sont représentés, par exemple, dans le voile qui était, ils étaient représentés dans ce voile qui séparait le Saint des Saints avec le reste du temple. On lit cela en Exode 26, verset 31. Ils étaient représentés sur ce voile et il était impossible d'entrer derrière ce voile dans le lieu très saint. Parce que le péché empêchait l'homme d'entrer dans la présence de Dieu. On voit un chérubin qui est à l'entrée du jardin d'Éden, qui empêche Adam et Ève de revenir, d'entrer à nouveau dans la présence de Dieu. Et voilà que les chérubins se tiennent devant le trône de Dieu. Comment est-ce que nous, pécheurs, nous pouvons entrer, nous pouvons avoir accès auprès du trône de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu? La réponse, bien sûr, ce n'est pas dans les œuvres qui pourraient nous donner accès, qui nous donner le droit d'entrer. Mais la réponse est la même que celle qui a été donnée à l'apôtre Jean. Verset 1. Comment est-ce que Jean est entré dans le ciel? Il est entré parce que Jésus l'a appelé. Et il l'a appelé par une porte qui est ouverte. 18e mot sur la feuille. La porte, c'est Jésus lui-même. Jean 10, verset 7, il est la porte. Il est aussi celui qui a déchiré le voile de la séparation. Le voile est séparé. Nous avons accès à Dieu, dans la présence de Dieu, par la foi en lui, étant unis à Christ. Et Jean entre dans la présence de Dieu et il voit le trône dans le ciel. Et nous entrons dans la présence de Dieu de la même manière. Comment est-ce que nous allons vaincre dans ce monde ? C'est toujours de la même manière, toujours par la foi en Christ, par cette nouvelle vie que Dieu nous donne en Christ. Dieu nous fera persévérer et il nous fera entrer par la foi en Christ. Il nous fera entrer dans sa présence, devant son trône, pour faire partie de ceux qui l'adorent et qui l'adoreront et le serviront pour toujours. Il nous donnera ce vêtement blanc, une couronne d'or, nous fera asseoir sur un trône. Nous voyons l'accomplissement et on saute à Apocalypse 22. Il n'y aura plus d'anathème, versets 3 et 4. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera inscrit sur leur front. Nous verrons sa face. Jean n'a pas pu décrire la face de Dieu. Mais Jean nous dit que lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous verrons sa face, 19e mot sur la feuille. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà la vision. Nous allons revenir la semaine prochaine sur l'adoration dans le ciel, de plus en détail. Mais voilà la vision que Dieu donne à Jean. Dieu est souverain sur toute chose. Nous sommes appelés à l'adorer. C'est l'activité principale, c'est l'activité qui se fait dans le ciel, c'est l'activité qui doit être notre activité principale. Et nous avons toutes ces raisons de l'adorer. qu'il nous donne ici de manière imagée. Que Dieu nous aide à comprendre cela, à le saisir, qu'il nous aide à le vivre et à le louer pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il nous a donné en Christ. Amen.